Vous écoutez, on lit pour vous.
Des avantages sociaux verts qui sortent de l'ordinaire. Un texte de Valérie Simard, paru le 10 avril 2026 dans la presse. Et si les avantages sociaux allaient au-delà des assurances, RIER collectif et congés payés? L'entreprise trifluvienne UniRecycle repense les avantages sociaux en offrant à ses employés un soutien financier pour l'adoption d'habitudes éco-responsables. Même si UniRecycle fête ses 10 ans, l'entreprise ne s'est pas défaite de l'ambiance décontractée et de l'audace des jeunes pousses. Dans un coin de la salle à manger des employés se trouve un espace friperie et une tour hydroponique verticale. À côté, dans l'entrepôt, des plantes trônent sur les stations de travail où les employés trient, réparent et effacent les données du matériel électronique récupéré dans des entreprises. En octobre 2025, les patrons ont lancé un concours. Ceux qui parviendront à maintenir leurs plantes en vie pendant 6 mois, lampes de croissance à l'appui, auront la chance de gagner une carte cadeau de 250 $. Chez les employés, les plantes sont devenues un sujet de conversation. Philippe Gignac et Mickey Gervais ont fondé UniRecycle en 2016, avec le désir d'améliorer les pratiques de recyclage et de réemploi du matériel électronique. « Ce n'est pas nécessairement facile, mais ça fonctionne », affirme Philippe Gignac. L'entreprise va bien. « On pourrait être en joyride tranquille », ajoute Mickey Gervais, vice-président. Les dirigeants ont plutôt choisi d'aller dans des zones inhabituelles. En rupture parfois avec les recommandations des consultants en développement économique, ils ont lancé des initiatives comme la plantation d'arbres, des dons à des organismes environnementaux, l'ouverture d'une bibliothèque d'outils et d'un atelier de réparation et l'adoption d'incitations financières pour encourager les employés à adopter des habitudes durables. Ce n'est pas parce que tu travailles chez UniRecycle que tu es un environnementaliste pur, constate Philippe Gignac. C'est correct, mais comme employeur, comment je peux faciliter ça? Depuis 2021, l'entreprise offre une subvention de 2 500 $ à ses employés qui achètent un véhicule électrique. 7 employés s'en sont prévalus. En janvier, cette offre a été étendue à l'intérieur d'un programme qui inclut une subvention de 1 250 $ pour l'achat d'un véhicule hybride branchable et une autre de 1 500 $ pour un vélo électrique. Les vélos ordinaires seront ajoutés bientôt. Le programme prévoit le remboursement du laissez-passer mensuel de transport en commun et des frais de réparation et de mise au point pour les vélos et trottinettes. Les participants peuvent aussi se faire rembourser une partie de leurs achats d'aliments biologiques dans des commerces locaux, jusqu'à concurrence de 450 $ par mois, ainsi que des formations éco-responsables. Le comité vert propose des activités comme des ateliers de semi et de tri des déchets et un jardin collectif. Rémunération durable. Les remboursements sont faits au moyen de l'application Teddy, une plateforme web créée par des Montréalais voulant offrir aux entreprises la possibilité d'accorder des avantages sociaux différents. Pour en profiter, les employés doivent cependant débourser 85 $ par mois. Philippe Gignac explique cette décision par la volonté de favoriser l'engagement environnemental et non pour en restreindre l'accès. C'est moins intéressant pour une personne qui ne ferait ça que pour l'argent, argue-t-il. Le jour où elle va embarquer, elle va s'en servir parce qu'elle voit la valeur qu'elle investit dedans. Il précise que l'employé peut recevoir entre 5 000 et 6 000 $ en contrepartie. Ces avantages sont toutefois imposables. La rémunération durable, c'est une façon différente d'amener un revenu qui a un impact encore plus significatif sur l'environnement, dit celui qui suit un cours sur la gouvernance à HEC Montréal. Il est finaliste pour le prix PDG Vert de l'année 2026, catégorie moyenne entreprise. L'entreprise de 85 employés a alloué un budget de 100 000 $ à ce programme, mais son président assure qu'il sera bonifié si le nombre d'intéressés grandit. Laetitia Bertolino, chargée de projets spéciaux en philanthropie et responsable du Comité Vert, indique que l'intérêt des employés est là. Pour l'instant, 19 s'y sont inscrits et 13 d'entre eux ont demandé au moins un remboursement. Mariam Razi, employée d'UniRecycle depuis 2024, affirme que le programme lui a permis de découvrir des maraîchers et des commerces locaux. Depuis son arrivée au Québec, elle avait plutôt l'habitude de fréquenter les grandes surfaces. Même chose pour Maxime Trottier, qui jusqu'à récemment était un habitué du Costco. Aujourd'hui, il dit avoir réduit ses dépenses chez ce géant américain pour encourager une petite épicerie locale de vrac. Depuis que je suis dans le Comité Vert, j'ai beaucoup appris à faire attention à mes gestes, à me poser des questions avant d'acheter quelque chose, indique celui qui travaille à l'expédition. Je vide ma poubelle beaucoup moins souvent qu'avant. Sa source d'inspiration. Philippe Gignac trouve inspirant le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard. En 2022, l'homme d'affaires américain a annoncé qu'il cédait son entreprise. 2% des actions ont été allouées à une fiducie pour que les bénéfices servent à des actions sociales et les 98% restants à l'organisation Hold Fast Collective, chargée de défendre des causes environnementales. Je ne dis pas que j'irai jusque-là, donner mon entreprise pour l'environnement, mais je trouverai une manière de donner une continuité à UniRecycle dans les valeurs environnementales et sociales. C'était Des avantages sociaux verts qui sortent de l'ordinaire. Un texte de Valérie Simard, paru le 10 avril 2026 dans la presse.
Courriel trompeur, ranimer un vieil iPad, paiement mobile en voyage. Un texte d'Alain McKenna, paru le 1er avril 2026 dans la presse. Daniel Bonin, un lecteur, demande « Je reçois à l'occasion des courriels dont l'adresse de l'expéditeur contient mon adresse courriel. Y a-t-il une solution pour freiner ces arnaques ?» Recevoir un message de sa propre adresse peut donner des sueurs froides. Mon compte a-t-il été piraté ? Rassurez-vous, c'est une illusion numérique. Sur une lettre reçue par la poste, par exemple, l'expéditeur peut écrire n'importe quelle adresse de retour dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, y compris celle du destinataire. Le facteur livrera le courrier sans vérifier si l'identité de l'expéditeur est exacte. Par courriel, la mécanique est identique. Le système d'envoi des courriels est assez ancien. Il permet de maquiller facilement l'adresse d'origine. Les fraudeurs utilisent cette ruse pour vous effrayer et pour éventuellement vous hameçonner. Aucune solution technique miracle n'existe pour bloquer cette supercherie à la source. La meilleure parade reste le bouton « indésirable » ou « pourriel ». Si vous signalez ces messages à votre fournisseur, le filtre de votre boîte de réception deviendra plus sévère. Ne répondez pas et ne cliquez sur rien. Effacez le courriel. Votre mot de passe est probablement toujours sous bonne garde. Gilles Gélineau, un lecteur, demande « Je désire récupérer des photos dans un vieil iPad. Peut-on y avoir accès sans mot de passe ? Est-ce qu'une firme externe peut y parvenir ?» La réponse va vous décevoir, mais prouve la sécurité de votre appareil. Sans code secret, votre vieil iPad est une brique, ni plus ni moins. Apple utilise un chiffrement matériel et le code numérique tapé à l'écran de ses appareils mobiles est l'unique clé de déverrouillage. Là-dessus, méfiez-vous des cliniques informatiques ou des logiciels virtuels et de leurs promesses miracles. C'est presque toujours une arnaque. Les seules entreprises capables de contourner cette barrière travaillent pour la police. Leurs outils coûtent des fortunes et restent inaccessibles au public. L'espoir ne se trouve pas sur la machine, mais dans le nuage. Si cette tablette était connectée à votre réseau sans fil à l'époque, vos souvenirs dorment peut-être encore sur les serveurs d'Apple. Allumez votre ordinateur et visitez le site d'iCloud. Connectez-vous avec votre profil Apple de l'époque. Vous y trouverez peut-être vos photos. Explorez aussi vos vieux disques durs pour dénicher une éventuelle sauvegarde iTunes oubliée. Monique Paradis, une lectrice, demande « Une policière à la retraite m'a recommandé d'enlever le paiement sans contact sur mon cellulaire en voyage et de payer avec la carte. Ce serait plus sécuritaire. Par contre, elle recommande de payer avec le téléphone plutôt qu'avec la carte au Québec. Est-ce une bonne pratique ?» Avec tout le respect dû à cette policière, son conseil repose sur une logique inversée. Le téléphone est plus sécuritaire que la carte de plastique, peu importe où vous êtes sur le globe. L'explication se trouve dans la technologie de la tokenisation du paiement sans contact. Lorsque vous approchez votre appareil d'un terminal, il ne transmet jamais votre véritable numéro de compte. Il génère et envoie un jeton unique et temporaire. Si un malfaiteur pirate le terminal d'un café à Paris ou d'une boutique au Québec, il récoltera seulement un code numérique éphémère, sans valeur. Une carte physique, elle, révèle ses vraies informations lors de chaque transaction. Un téléphone perdu ou volé exige votre visage, votre empreinte digitale ou votre mot de passe pour autoriser un achat. Une carte volée donne la chance au voleur de faire plusieurs achats sans contact avant le blocage du compte par votre institution financière. Le seul véritable risque avec un téléphone à l'étranger est une panne de batterie ou une incompatibilité de la carte de paiement choisie avec le terminal. La solution ? Utilisez votre appareil pour vos achats quotidiens et laissez votre carte bien cachée dans votre chambre d'hôtel comme plan de secours. C'était Courriel trompeur, ranimer un vieil iPad, paiement mobile en voyage. Un texte d'Alain McKenna, paru le 1er avril 2026 dans la presse.
Quelles sont les nouvelles habitudes de voyage des Québécois? Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 31 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Les séjours aux États-Unis ont chuté à 13 % à l'été 2025 en raison des tensions Ottawa-Washington. 71 % des voyageurs québécois ont choisi le Québec, un léger recul par rapport à l'été 2024. Seulement 6 % à 13 % des voyageurs québécois adoptent des gestes écologiques concrets. Entre inflation, tensions commerciales et soif d'ailleurs, les habitudes de voyage des Québécois ont évolué l'an dernier. Le Québec demeure une valeur sûre, mais cède peu à peu du terrain au reste du Canada, tandis que les séjours aux États-Unis chutent. Quatre tendances à retenir de la plus récente étude de la chaire de tourisme Transat sur les comportements des voyageurs. Les États-Unis boudés, le reste du Canada en profite. Les tensions entre Ottawa et Washington ont refroidi l'intérêt pour les destinations américaines. À l'été 2025, seulement 13 % des répondants disent avoir traversé la frontière, contre 23 % l'été précédent. Le reste du Canada en bénéficie. 31 % des voyageurs ont visité une autre province durant la saison estivale, contre 25 % en 2024. Le Québec demeure populaire, mais en léger recul. 71 % des voyageurs ont fait au moins un séjour dans l'une de ces régions, contre 79 % un an plus tôt. Les voyages internationaux hors des États-Unis restent stables à 36 %. La baisse des séjours estivaux dans la province est une première, note Marc-Antoine Vachon, professeur en marketing à l'ESG UQAM et titulaire de la chaire de tourisme Transat. Depuis 4 ans, il s'intéresse aux habitudes de voyage des Québécois et mène cette vaste étude. Ce n'est pas alarmant, mais c'est un drapeau jaune. Cette baisse va-t-elle continuer? Va-t-on voir une tendance? Ça va être à surveiller, indique-t-il. Méthodologie. L'étude Tendances et comportements des voyageurs québécois est menée par la chaire de tourisme Transat depuis 2022. 16 organismes et entreprises du milieu touristique ont collaboré à l'édition 2026 afin d'élargir l'étendue du sondage. Celui-ci a été mené en ligne du 17 au 25 novembre 2025 auprès de 3055 Québécois ayant passé au moins une nuit hors de chez eux dans l'année précédente. Le Québec, un refuge. Malgré ce recul, près des trois quarts des voyageurs ont tout de même choisi le Québec dans la dernière année. Les séjours sont généralement de courte durée. 48% des répondants disent être partis pour une ou deux nuits. Ils accordent une note moyenne de 3,86 sur 5 à leur expérience et de 3,64 sur 5 au rapport qualité-prix. Par ailleurs, 71% souhaitent revenir dans la région visitée. Avec la pandémie, on a créé un réel intérêt pour le Québec. Mais on sent que les Québécois se demandent s'ils en ont pour leur argent. Il faut travailler à enrichir leur expérience, souligne M. Vachon. Le voyage, un pilier du bien-être. Pour 62% des répondants, voyager contribue à améliorer leur santé mentale. Un chiffre que M. Vachon juge bas. Beaucoup de gens ne mesurent pas à quel point le voyage contribue à leur bien-être. Toute déconnexion est bénéfique, même si c'est juste une ou deux nuits, soutient-il. Plusieurs l'ont compris et multiplient les micro-séjours. Le phénomène du « blazer », contraction de « business » et de « leisure », gagne notamment du terrain. 42% des répondants ont affirmé avoir prolongé un déplacement professionnel à des fins d'agrément en 2025, contre 25% en 2024. D'autres profitent des nouvelles habitudes de télétravail pour décrocher plus longtemps. 22% des répondants ont prolongé un séjour grâce au télétravail, contre 13% en 2024. Avant, c'était une semaine dans le sud ou rien. Aujourd'hui, on va chercher ces micro-pauses, on part au chalet la fin de semaine et on prolonge quelques jours sur place, indique M. Vachon, notant toutefois que le retour au bureau pourrait freiner cette tendance. Cette volonté de voyager se reflète aussi dans les dépenses prévues pour 2026. 38% considéraient qu'il s'agit d'une dépense prioritaire en 2025, contre 33% il y a 4 ans. Par ailleurs, 26% des voyageurs ne prévoient aucune mesure pour réduire leurs coûts, limiter les repas au restaurant, diminuer les attractions payantes ou choisir des destinations proches, contre 14% en 2024. Et la proportion de gens qui comptent choisir des hébergements ou restaurants plus abordables a chuté de 41% à 29%. L'environnement, toujours secondaire. Malgré l'urgence climatique, peu de voyageurs, entre 6% et 13%, disent faire des gestes concrets pour réduire leur empreinte environnementale, comme la compensation carbone, des hébergements durables ou des transports moins polluants. Les chiffres stagnent depuis 4 ans. On a atteint un plateau et il reste bas, déplore M. Vachon. Plus préoccupant encore, la proportion de voyageurs affirmant modifier leur comportement en raison des changements climatiques recule pour la première fois depuis le début de l'étude, passant à 22%, contre 27% en 2024. Il faut des effets concrets, comme les risques météo extrêmes, pour influencer les voyageurs dans leur planification. C'était « Quelles sont les nouvelles habitudes de voyage des Québécois ?» Un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 31 mars 2026 dans Le Devoir.
La passion des grandes familles de Montréal fait le bonheur de tous. Un texte de Daniel Lamarre, paru le 3 février 2026 dans La Presse. Au Québec, les gens ont beaucoup de difficultés avec la création de richesses. Pourtant, les gens fortunés ont créé leurs avoirs en prenant des risques énormes et en consacrant toute leur vie à la croissance de leur entreprise. Ils sont aussi à l'origine de nombreux emplois dans notre société. Lorsqu'ils poussent l'audace jusqu'à devenir propriétaires d'une équipe sportive professionnelle, ils sont souvent critiqués. Et comme la victoire fait foi de tout, les Saputo, Molson et Pelado sont exposés à l'humeur des partisans. Toutefois, si ces grandes familles québécoises n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'équipe sportive professionnelle à Montréal. Si la famille Saputo se retirait du CF Montréal, est-ce que vous croyez qu'il y aurait beaucoup d'acquéreurs pour prendre sa place? La réponse est non. On assisterait à la perte d'une autre équipe professionnelle comme les Expos et les Nordiques. Il faut se rappeler qu'il y a un point commun entre la perte des Expos et des Nordiques. Ces deux équipes appartenaient à un consortium d'entreprises. C'est une très mauvaise formule. Pourquoi? Parce que ces entreprises sont aux prises avec les aléas du marché et l'humeur de leur conseil d'administration. Un jour, les actionnaires disent « Qu'est-ce qu'on fait dans le sport professionnel? Ce n'est pas la raison d'être de notre entreprise. Alors, vendons! » C'est pour cette raison que les grandes équipes sportives américaines sont la propriété d'individus ou de grandes familles fortunées qui sont passionnées par le sport. C'est cette formule de propriété qui assure la stabilité d'une franchise sportive. De la relève au CF Montréal. Lorsque j'ai vu Joey Saputo devenir propriétaire de la prestigieuse équipe de Bologne, en Italie, j'étais inquiet. Surtout qu'à ce moment-là, il était victime de beaucoup de critiques des amateurs d'ici face aux insuccès du CF Montréal. Je pense que la meilleure nouvelle pour les amateurs de soccer québécois est la montée des fils Saputo dans l'organisation du CF Montréal. C'est ce qui devrait assurer la relève de cette propriété sportive. Il faut aussi se rappeler que la brasserie Molson s'était départie du club de hockey canadien au début des années 2000. À cette époque, les gestionnaires et les actionnaires de Molson avaient décidé de se concentrer sur le marché de la bière et d'abandonner ce joyau du sport professionnel. Contrairement à ce qu'on peut penser, les acquéreurs québécois ne se bousculaient pas pour faire cette acquisition de prestige. Tant et si bien que le chef de la direction de Molson, Dan O'Neill, a convaincu son voisin, à son centre de ski au Colorado, George Gillett, d'acquérir l'équipe au rabais. Heureusement, quelques années plus tard, Andrew et Geoff Molson ont repris les rênes de l'équipe à la tête d'un consortium d'investisseurs. Il nous faut maintenant espérer qu'un fils ou une fille des Molson développe une passion pour le hockey. Nous pouvons aussi nous considérer comme chanceux que Pierre-Carl Pelado se soit porté personnellement acquéreur des Alouettes de Montréal. Sans sa participation, je suis loin d'être convaincu que les Alouettes seraient toujours vivants. Là aussi, il nous faut espérer qu'un fils ou une fille de M. Pelado développe une passion pour le football. Il n'y a rien de mieux qu'une grande famille ou un individu fortuné pour assurer la pérennité d'une grande équipe sportive. Je pourrais aussi parler de la nécessité des grandes familles québécoises dans le domaine de la philanthropie. Je pense à la grande famille Desmarais, à Serge Godin, à Alain Bouchard, à Stephen Bronfman. Nous avons besoin de ces grandes familles pour donner un élan à l'économie et aux œuvres philanthropiques. C'était « La passion des grandes familles de Montréal fait le bonheur de tous ». Un texte de Daniel Lamarre, paru le 3 février 2026 dans La Presse.
Essence. Guerre des prix au Québec avant la tempête de Trump. Un texte de Louis Deschênes, paru le 7 avril 2026 sur tvanouvelles.ca. Pendant que des détaillants se livrent une guerre de prix, le coût de l'essence pourrait encore grimper dans les prochaines heures en réaction aux déclarations de Donald Trump. Après les vacances de Pâques, les prix du pétrole ont rebondi mardi matin suite aux menaces du président américain de détruire des infrastructures énergétiques dans la soirée. Le baril de WTI progresse de 2,82% à 115,78 $ US, tandis que le Brent gagne environ 1,5% pour s'établir à 110,46 $ US. En attente des derniers développements au Moyen-Orient, les automobilistes magasinent leur essence, profitant de la guerre des prix dans certains secteurs du Québec. Sur le chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal, un Shell vendait son essence à 1,72,9 mardi matin, une économie de 27 cents comparativement à d'autres stations à proximité. L'essence au poste Irving, en bordure de l'autoroute 20 à Saint-Liboire, se détaillait toujours à 1,73,8 $. Les automobilistes pouvaient attendre 20 minutes pour mettre de l'essence lundi au Costco de Laval. Lundi, au Costco de Laval, des dizaines de personnes faisaient la queue dans chaque rangée pour faire le plein d'essence à 1,84,9 $ le litre, tandis que plusieurs stations-service de Montréal affichaient 2,29 $. Pendant ce temps, encore plusieurs stations-service de Montréal et de Laval se maintenaient sous la barre psychologique du 2 $, proposant à 1,99,9 $ à leur clientèle. C'était « Essence, guerre des prix au Québec avant la tempête de Trump », un texte de Louis Deschênes, paru le 7 avril 2026 sur tvanouvelles.ca.